la dispute, ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Touendoy, Boris Pinault et Camille André. La prise de son est assurée ce soir par Alex Dang et à la réalisation, c'est comme toujours Thomas Beau. Je salue ce soir autour de moi Yasmine Youssi, Corinne Rondeau et Anaëlle Pija avec à notre programme trois expositions doublées de trois livres. La photographie française existe, je l'ai rencontrée, c'est à la Maison européenne de la photographie à Paris puis à Lille. Mondzigan, une histoire de la photographie, c'est au musée de l'histoire de l'immigration. Et Junya Ishigami, Freeing Architecture à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Aïssa Touendoy est également avec nous pour nous lire vos commentaires, des commentaires que vous pouvez toujours laisser sur Facebook ou sur Twitter, et toujours un cadeau à la fin, puisqu'on retrouvera le jeu de la dispute ce soir à gagner des invitations pour la série télévisée 8 heures ne font pas un jour de Rainer Werner Fassbinder en version restaurée, et c'est aujourd'hui au cinéma. Et nous commençons cette soirée par des adieux, paradoxalement ceux que Jean-Luc Monterosso adresse à la Maison européenne de la photographie dont il vient de quitter la direction, direction qu'il assurait depuis son ouverture en 1996. À cette occasion, il livre une exposition très personnelle dont le titre est logiquement à la première personne. La photographie française existe, je l'ai rencontrée, dont je livre peut-être simplement le propos liminaire. Au tout début des années 1980, peu de temps après la création du mois de la photo à Paris, au cours d'un séjour à New York, j'ai souhaité rencontrer John Skarkovsky, le célèbre conservateur pour la photographie au MoMA. Il ne me connaissait pas, mais avec cette légendaire disponibilité qui est l'apanage des grands professionnels américains, il m'a fixé très rapidement un rendez-vous. À la fin d'un amical entretien, j'ose lui demander ce qu'il pense de la jeune photographie française. Il me répond « It doesn't exist ».
Rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. Engourdi par le sommeil et prisonnier de mon lit. J'aimerais que cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers. Sans toi, la vie est devenue un enfer. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi. Lorsque tu disais tout bas que tu n'aimais que moi.
Voilà, notre malin réalisateur Thomas Beau nous passe du Étienne Dao, puisque la pochette de l'album La Notée, La Notée était une couverture signée Pierre et Gilles. Pierre et Gilles qui ouvre cette exposition, qui en signe aussi l'affiche, une exposition dans laquelle vous allez peut-être commencer par nous guider, Yasmine aussi.
Écoutez, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une exposition presque salutaire, parce que c'est vrai que le monde de la photo aujourd'hui est dominé par les Américains, que la photographie française n'est pas reconnue au même titre que leurs homologues, enfin les photographes français ne sont pas retenus au même titre que leurs homologues anglo-saxons ou germains, et que là, on se prend vraiment en pleine figure que cette scène, elle est riche, que cette scène, elle est originale, elle est singulière, elle n'est pas clinquante, c'est peut-être ce qui fait la différence, et qu'elle est vraiment importante, qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous dire, à nous montrer. Ça pose aussi la question de... J'ai trouvé ça d'autant plus intéressant qu'elle pose la question de savoir pourquoi cette scène française, justement, n'est pas reconnue à sa juste valeur au même titre que les autres. Je pense qu'il y a beaucoup, plusieurs réponses à cela. C'est une très belle manière pour Jean-Luc Monterosso de tirer sa révérence. C'est une très, très belle exposition. Tout est impeccable, que ça soit le choix des œuvres, moi, m'a assez bluffé. Même des artistes que j'apprécie pas particulièrement, Pierre et Gilles, c'est vrai qu'ils ont fini par me lasser. C'est vrai que je leur ai jamais pardonné la photographie du cette mise en scène qu'ils ont fait d'un déporté à moitié nu. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément choquée et dont j'ai eu beaucoup de mal à me remettre. Et là, on commence avec leur première photo. très graphiques, en noir et blanc, qui sont très très belles. Idem pour Bettina Reims, moi elle m'a perdue depuis INRI, je crois, qu'elle avait montré à la Maison Européenne de la Photographie. Et ça, c'est effectivement des artistes qui ont été montrés à la MEP. Et là, encore une fois, le choix de Jean-Luc Monterosso, ses portraits androgynes de jeunes adultes, d'adolescents, qui sont magnifiques. On peut pas les dater presque. Ils ont vraiment quelque chose d'assez classique. Depardon, bien sûr. Vous allez dire Depardon encore. Et là, on se rend compte de l'importance de tout ce travail qu'il a fait à New York. Alors, je trouvais les photos les plus récentes moins intéressantes, là, qui sont très grandes, très grand format.
Parce qu'en fait, c'est une mise en parallèle dans un couloir entre de deux séries, une de deux séries. 73, je crois.
Voilà.
Et une très récente.
Et très récente, hein, qui ont été faites. Non, alors, les autres, c'est 82, hein, je crois. Et elles ont été refaites. Il n'y a pas longtemps, c'est pas la même chose hein, qui fonctionne. Et puis tous les autres, Fleischer qui est un infatigable chercheur, Plossu qui est vraiment bouleversant d'humanité. Enfin, il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à apporter en plus. On peut se dire, bon, peut-être la photo de Mone n'est pas très représentée, mais il y a Sarah Moon. Voilà, et au-delà des grands noms, il y a tous les genres de la photographie. La photographie de guerre, que ça soit avec des historiques comme Christine Spengler qu'on voit pas assez, qu'on a vu à la MEP pas mal, mais aussi Laurent van der Stock, les plasticiens, les photographes documentaires, la manière dont la photographie documentaire se réinvente. Voilà, moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé que c'était un magnifique panorama et que ça remettait bien les idées en place.
Ouais, pour une première vision, Corinne Rondeau, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette exposition?
Tout le contraire.
Très bien.
Tout le contraire. Non, mais je comprends que cette phrase, la photographie française n'existe pas, puisse l'obséder pendant plusieurs années et se mettre justement à l'œuvre. Enfin, c'est quelqu'un qui a compté sur justement la mise en place de la photographie, la représentation, la visibilité de la photographie en France. Ça, j'y reviens pas dessus. Mais moi, son destin commence avec les années 80. Et on commence l'expo les années 80, puisqu'il dit aussi que c'est vraiment une exposition qui est de l'or du cœur, littéralement. Donc, moi, je crois qu'effectivement, avoir du cœur, c'est important. Mais transmettre ce qu'on aime, voire même ce qu'on n'aime pas, c'est une autre affaire. Et moi, je trouve que je suis un peu restée à la lisière de ce qu'il aime, parce que j'ai trouvé que ces années 80, effectivement, Pierre et Gilles, vous l'avez dit, il y a du graphisme, mais bon, moi, j'ai trouvé ça, que ça avait beaucoup vieilli, terriblement vieilli.
Beaucoup moins que ses portraits.
J'ai été quand même extrêmement déçue par le fait que, Depardon, bien sûr qu'il est important, Depardon, mais je veux dire, il a un couloir entier, c'est quand même colossal par rapport à d'autres artistes, notamment les artistes femmes, qui sont très... Il y en a 10 sur les 45 artistes. Il y a quand même il y a des choix qui m'ont, moi, par ailleurs, extrêmement agacée. Au deuxième étage, j'ai bondi d'agacement.
Mais avec qui?
Avec, justement, le deuxième étage. Alors, je reviens, et puis après, j'y reviendrai, si vous le bien, Yasmine. Mais il y a une volonté, il y a à la fois, il y a un accrochage qui tend vers une exposition. C'est-à-dire, une exposition, vous voulez démontrer quelque chose. Vous voulez amener à penser. Donc, il y a une volonté d'amener des thématiques. Donc il y a la mise en scène au premier étage, il y a Pierre et Gilles notamment, il y a le documentaire avec Depardon, mais il y a aussi la photoplasticienne avec Georges Rousse. On se dit, mais que vient foutre Georges Rousse ici? Alors Tosani, alors Georges Rousse, j'ai trouvé ça d'une faiblesse folle, mais comme c'est avec le cœur, vous l'excusez, vous voyez. Donc j'ai trouvé qu'à la fois il y avait cette volonté de vouloir tirer des thématiques pour amener un certain nombre d'artistes qui ont tous une monographie à la MEP, et en même temps j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de faiblesses sur ces accrochages-là, notamment sur le côté plasticien, qui est très faible.
On va y revenir peut-être, Anaëlle, sur une vision générale et justement sur ce choix extrêmement subjectif qui peut remettre un peu en question la question de la cohérence et de la démonstration du projet.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette exposition, c'est qu'elle est l'occasion de faire le point sur l'histoire de ce lieu et sur ce que c'est qu'un lieu consacré à la photographie à Paris, qui est né en fait avec le début de la reconnaissance de la photographie à la fin des années 70, au début des années 80, puisque la MEP commence avec Paris Audiovisuel, une association qui est créée en 78 par Jean-Luc Monterosso. Et ouvre, bénéficie d'abord d'un premier espace en 85 et ouvre en 96 avec un statut assez singulier puisque c'est un lieu qui est soutenu par la mairie de Paris qui met à disposition le bâtiment, mais la MEP ne fait pas partie des musées de la ville de Paris et aujourd'hui de l'établissement public Paris Musée. Et en fait, la MEP est marquée profondément, singulièrement par la personnalité de Jean-Luc Monterosso qui l'a créée et qui la dirige, enfin qui l'a dirigée pendant 22 ans. Alors évidemment, 22 ans, c'est beaucoup, ça confine au règne. C'est aujourd'hui une chose assez rare. On a guère en tête que le cas, par exemple, de Suzanne Paget, qui a dirigé pendant très longtemps le musée d'art moderne de la ville de Paris. Aujourd'hui, ça serait impossible que quelqu'un dirige une institution publique ou parapublique pendant aussi longtemps. Alors, au fond, ça pose la question de savoir ce que c'est qu'une collection publique. Est-ce qu'une collection publique, c'est fait par des comités d'acquisition avec un souci d'exhaustivité? Là, d'une manière un peu bizarre, on se rapproche de la question du goût, quasiment d'une collection de collectionneurs, ce qui est tout à fait étrange. Alors, il y a quelques musées publics qui sont des musées de collectionneurs et dont la collection a pour noyau des collections privées, mais en général, c'est pas le cas. Alors, on peut examiner cette question. Si on revient sur ces années d'existence de la MEP, évidemment, comme Yasmine et Corinne l'ont dit, la programmation récente des expositions a parfois laissé à désirer, donné l'impression qu'on se laissait aller à la facilité. Donc moi, j'avoue que je suis arrivée légèrement dubitative dans cette exposition. Et je dois dire aussi que...
Maintenant, vous avez compris pourquoi vous...
En faisant le parcours, en fait, j'ai été assez bluffée aussi par le résultat. Alors, effectivement, il faut prendre cette exposition telle qu'elle est, c'est-à-dire une exposition extrêmement personnelle, extrêmement subjective. On est guidé par la visite simplement par quelques petits textes de Jean-Luc Monterosso, qui sont par ailleurs extrêmement bien écrits et précis et éclairants sur les œuvres qu'on a sous les yeux. Effectivement, il y a des thématiques qui se dessinent. Je trouvais qu'il y avait une certaine générosité aussi parce que les artistes sont montrés avec un ensemble d'œuvres chaque fois. Donc c'est comme des micro-expositions monographiques qui donnent quand même un bon sens du travail des uns et des autres. Alors, et au fond, c'est une exposition qui est régie par une certaine économie de mots et de moyens dans le meilleur sens du terme, qui lui donne donc quelque chose d'assez percutant, je trouve. Alors, effectivement, c'est un propos très subjectif. Donc, il y a des redécouvertes au sens où on se rend compte que Jean-Luc Monterosso a fait des choix très en avance. Il a montré Pierre et Gilles vraiment très tôt, puisqu'on parlait d'eux à l'instant. Il y a aussi des redécouvertes, comme par exemple le cas de Pascal Kern, qui est aujourd'hui assez oublié, et dont j'ai vu notamment des natures mortes très picturales, avec beaucoup de plaisir. Il y a des images extraordinaires, par exemple les ensembles de Bernard Faucon, avec ses tirages fraissons qui sont époustouflants.
Mise en scène.
Qu'on découvre absolument. Il y a ce lien à la littérature qui est très singulier, avec par exemple Bernard Plossu et Denis Roche, des images très touchantes. Et puis évidemment, il y a des faiblesses, je suis absolument d'accord pour le dire. Les images de Georges Rousse, effectivement, m'intéressent moins. Il y a des choses, mais à partir du moment où on considère que c'est un choix subjectif et qu'on le prend comme tel, cette exposition m'a beaucoup intéressée.
Je vais revenir à vous là-dessus, Corinne. Yasmine aussi,
ouais.
Peut-être.
Oui, je trouve que Anaëlle pointe vraiment très très bien l'idée de collection. C'est ça, ce que c'est qu'une collection, une collection publique. Et là, c'est vrai que c'est presque une collection privée qui apparaît. Mais elle est, et cette exposition est à l'image de Jean-Luc Monterosso. La force et la faiblesse de Jean-Luc Monterosso, c'est que de ses choix, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle. Extrêmement fidèle, ce qui fait que on a pu se retrouver avec des expositions de gens qu'on avait l'impression de voir, de revoir, alors qu'ils n'avaient pas forcément quelque chose à dire. Et cette fidélité, elle se retrouve là. Bernard Faucon, aujourd'hui, pratiquement plus personne n'en parle.
Il est plus célébré, mais on le voit pas,
on l'expose pas, on le voit très peu. Et c'est vrai que Jean-Luc Monterosso à la MEP lui restait toujours très fidèle. Vraiment très très fidèle.
Mais alors, est-ce qu'on peut trouver un intérêt autre que justement de rentrer dans la tête entre guillemets de Jean-Luc Monterosso?
Oui, parce qu'il y a l'histoire de la photo quand même de ces dernières années. Il y a la force de cette photo, ce qui la distingue des photos des Anglo-Saxons. On est vraiment à 1000 milles. On n'est pas du tout dans ces grands formats. On n'est pas dans ces couleurs qui claquent. On n'est pas du tout dans tout ça. On est beaucoup plus dans l'intime. Et c'est ce qui fait aussi notre singularité. C'est un beau panorama, moi, je trouve. Un panorama assez juste, en fait.
Corinne Rondeau.
Finir avec Orlan et JR, pardonnez-moi, c'est pas un joli panorama, la photographie, c'est pas de la photographie.
Orlan, je vous l'accorde.
C'est du travail sur des supports photographiques.
Non.
Alors, moi, je veux bien qu'on excuse le départant de son goût subjectif et de sa fidélité. Mais à un moment donné, il faut pas non plus tromper, je dirais, moi...
Ah, c'est pas tromper parce que c'est à l'image.
Yasmine, s'il vous plaît, la photographie française existe. Moi, je voulais la voir. Il a rencontré des gens qu'il met dans son expo. C'est très bien, mais vous voyez qu'il y a deux choses. Donc, je peux ne pas être contente de ce que j'ai vu de ce panel, parce qu'effectivement, moi, je suis sortie en me disant, c'est la collection de Jean-Luc Montessero et Terroso. Et ça m'agace. Ça m'agace parce que c'est un établissement public.
Mais il vous manque qui, par exemple ?
Mais c'est pas la question qui me manque, c'est... Excusez-moi.
Non, je vous en prie. Non, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un malentendu qui est un malentendu au départ, peut-être sur le titre et sur l'ambition.
Mais écoutez, il se fait plaisir au parti.
Et scientifique.
Et voilà, il est comme ça. Il est comme
alors,
ça
pourrait être donné comme ça et être intéressant de ce point de vue-là aussi, Anaëlle Pigeat. Peut-être.
Oui, je trouve que, en fait, cette exposition n'est pas un panorama de la photographie française. C'est en effet un choix de photographie qui parle de. D'une certaine photographie française,
celle
que Jean-Luc Monterosso a rencontrée. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y a des absences, il y a des silences, et je ne crois pas qu'il le
soit. Oui, il le dit.
Et voilà, il s'en prend déjà absolument pas. Par exemple, ne serait-ce que, enfin, dans les choses qu'il a lui-même regardées, les photographes qui ont aussi une pratique de peintre qu'il a montré à la MEP, comme les Poirier, par exemple, comme Monory, comme Marcus Retz, ceux-là ne sont pas dans l'exposition. Toute la génération d'avant la sienne n'est pas dans l'exposition. Il y a une idée que j'aime beaucoup qu'il énonce à plusieurs reprises dans l'exposition, qui est on accompagne sa génération. Je crois profondément que quand on regarde de l'art, on accompagne sa génération. Il accompagne sa génération, c'est sa génération qu'on voit dans l'exposition. C'est comme ça. Le cas de la MEP est un cas très particulier. Et l'autre chose que je trouve intéressante dans l'exposition, c'est que on peut dire, et c'est un fait, les enjeux de la jeune photographie aujourd'hui, les enjeux d'aujourd'hui de la photographie sont totalement absents. L'idée que la photographie peut entrer dans la troisième dimension, peut toucher à l'objet, touche même à la vidéo. Ça est absolument absent de l'exposition. Il y a néanmoins de jeunes créateurs dans l'exposition, parmi lesquels par exemple Mathieu Pernaud, ou une exposition de Guillaume de Sardes, qui est dans le petit espace qui donne sur la rue, qui sont des artistes assez jeunes, et qui s'inscrivent dans le goût de Jean-Luc Monterosso, c'est-à-dire aussi qui touche à la littérature, qui touche à l'écrit et qui ne touche pas à d'autres formes que prend la photographie actuellement, dont acte. Ça laisse le champ ouvert à Simon Baker qui prend la relève et qui
alors à propos justement de Simon Baker, alors qui est Simon Baker qui va prendre le relais?
Lui vient de la Tate, c'est un Britannique qui vient de la Tate moderne de Londres où il s'est occupé du département photo si ma mémoire est bonne. On a beaucoup vu ses expositions qui étaient pour la plupart qui étaient toutes très très belles, hein. Moi celle que j'ai vue à Arles plusieurs années, le Festival d'Arles lui a confié des expositions, notamment des expositions de photographes japonais. Voilà, mais écoutez, c'est une nouvelle aventure qui commence et on attend ça.
Oui, ça va être très intéressant de voir ce qu'il prépare et ce qui sera forcément une histoire complètement différente qui rejoindra peut-être des curiosités que le Centre Pompidou met en œuvre aujourd'hui, enfin des recherches que le Centre Pompidou met en œuvre aujourd'hui. Ça sera une autre histoire. Là, c'est une histoire très singulière qui s'achève et qui a un certain nombre de particularités assumées.
Donc Corinne, si vous sauviez une chose, peut-être une photographie que vous n'aviez pas vue depuis longtemps ou vous avez redécouverte.
Non, mais il y a des choses que j'ai aimées, mais j'ai pas aimé, par exemple, des Salgados. Il y en a trop.
Il y en a beaucoup,
trop,
c'est vrai.
Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Mais voilà, j'étais contente de voir Christine Splanger, mais il y a une photo. Et en face, on a une autre photographe, Marie-Laure Decker, qu'on ne voit jamais. Et ouais. On a des autoportraits. Alors qu'elle a fait des autoportraits, elle a fait des portraits, elle a été aussi photographe de guerre. Là, je trouve ça. J'étais très en colère. Mais j'ai bien aimé revoir les photos de Darzac, que j'aime beaucoup, le photographe là, pour le coup, contemporain. Mais voilà, il n'était pas bien à sa place, par exemple, pour moi. Mais moi, je suis contente vraiment que
Valérie
ça change
Belin
de direction.
Aussi, j'étais très heureuse de la voir.
Yasmine aussi.
Non, il était avec Valérie Belin aussi. Il était avec. Moi, j'aime beaucoup le travail de Valérie Belin. En même temps, je vous dis, il y a cette question qui se pose de pourquoi ces photographes ne sont pas reconnus comme leurs homologues allemands, comme certains américains, alors qu'ils le méritent tout autant. C'est vrai que la MEP les a portés, mais on les voit jamais. Pour beaucoup, on les voit pas, ou alors dans des expositions minuscules au jeu de paume. Non, au jeu de paume, on les voit pas. C'est à peu près toujours les années 30. Ou alors, souvent un même genre de photographie. À Beaubourg, on ne les voit pas non plus au Centre Pompidou. Les collectionneurs français ne s'y sont pas intéressés non plus. Voilà, moi, ça me pose quand même pas mal de questions, tout ça.
Anaël Pichard, un dernier mot.
C'est vrai, pour exprimer quelques limites quand même, c'est que la fin de l'exposition est un peu contorsionnée. On a l'impression qu'il lui manque de l'espace, que les rapprochements entre Valérie Belin, Journiac, Darzac, Orlan, Martial Charrier, tout ça, ça, c'est trop serré à la fin. Moi, je reste sur le souvenir des premières salles et de cette évocation d'une photographie intime qui n'est pas sensationnelle, avec Hervé Guibert, avec Plessu, Denis Roche, et dans la suite des premières salles aussi avec Bernard Faucon et Pierre et Gilles, que je trouve tout à fait réussi.
La photographie française existe, je l'ai rencontrée, c'est donc une exposition qu'on peut voir jusqu'au 20 mai à la Maison Européenne de la Photographie à Paris, puis cet été à Lille dans le cadre du festival Les Transphotographiques. Je précise qu'il existe également un catalogue disponible aux éditions Xavier Barral.
France Culture,
La Dispute, Lucille Comeau.
Nous sommes toujours au cœur de La Dispute, ce soir consacrée aux arts plastiques. On quitte la Maison Européenne de la Photo, mais on parle encore de photographie avec cette grande exposition qui se tient en ce moment au Musée de l'Histoire de l'Immigration, Mondzigan, la fabrique des images, sous-titre Une histoire photographique 1860-1980. Vaste par le nombre de choses qu'on peut y voir, apparemment je ne l'ai pas encore vu. Vaste aussi par son ambition, quand on lit la note d'intention d'Hélène Aurin qui dirige ce lieu. Il s'agit d'interroger la multiplicité des points de vue portés sur cette communauté qui souffre depuis toujours de rejet et discrimination. Et c'est donc un travail, je cite, « engagé », soutenu par des historiens, Ilsen Abou et Adèle Sutre, et le photographe Mathieu Pernaud. Anaël Pijat, est-ce que vous allez réussir à nous guider, du moins à synthétiser un peu tout ce qu'on peut voir, faire une petite typologie de ce qu'on peut voir dans cette grande exposition sur le Mondzigan ?
Je vais essayer en tout cas, mais c'est vrai que la tâche est ardue parce que cette exposition est fort riche. Cette exposition, en effet, est d'abord une exposition engagée qui fait le récit d'une histoire mal connue. L'histoire des Tziganes. C'est intéressant d'ailleurs de remarquer qu'à Paris, en ce moment, se tiennent deux expositions sur cette question, l'autre étant celle de la Maison Rouge sur Chaya Stoïka, dont nous avons parlé récemment dans l'exposition « Peintre Tzigane », dont le travail vient d'être redécouvert. Donc une exposition engagée qui revient sur l'histoire d'un groupe humain maltraités, persécutés, et dont on retrace les trajectoires à travers le monde et aussi à travers la législation, à travers la manière dont ils sont présentés en images. C'est une exposition très touchante aussi parce que c'est une exposition qui parle d'individus, que si l'on se plonge dans ces histoires, dans ces photographies, On découvre des personnages, on découvre des êtres photographiés, mais on découvre aussi des photographes. Certains sont des photographes très connus, d'autres sont des photographes tziganes qui photographient à l'intérieur des groupes, leurs familles, leurs amis. Et puis enfin, c'est une exposition extrêmement intéressante parce qu'elle parle d'images et parce qu'elle parle de ce genre photographique qui est extrêmement particulier, puisque la photographie de ces mondes tziganes a commencé d'abord avec les, enfin, réunit différents types de photographiques. Il y a la photographie judiciaire, la photographie anthropologique d'abord, faite par les savants au début du siècle, c'est par là que commence l'exposition. Il y a la photographie judiciaire, les tziganes photographiés pour le livret anthropométrique qui deviendra ensuite le livret de circulation. Il y a des photographies issues des magazines qui montrent l'exotisme des mondes tziganes. Et puis, il y a à la fin cet ensemble de photographies de Mathieu Pernaud, dont nous parlions à l'instant, à propos de la Maison européenne de la photographie, puisqu'elle est aussi présente dans cette exposition, et qui montre, et c'est par là que se conclut cette exposition, qui montre cet ensemble de photographies qu'il a fait d'une famille tzigane à côté d'Arles, les Gorgans, qu'on avait vu à plusieurs reprises, notamment aux rencontres photographiques d'Arles l'année dernière, et qui est tout à fait passionnant parce que c'est un travail qu'il a fait en gros au cours d'une vingtaine d'années de fréquentation de cette famille. Ce qui est très intéressant, c'est que ça inscrit aussi ce travail dans une histoire de la photographie, ce qui n'était pas forcément le cas à Arles. Donc en fait, c'est une exposition extrêmement polysémique et extrêmement multidimensionnelle.
Alors Yasmine Youssi, on va peut-être essayer de l'attraper par un bout. Par exemple, le travail de Mathieu Pernaud, j'imagine
Mais
que
le
vous le connaissiez.
Mathieu Pernaud, il est absolument fabuleux et on l'avait vu l'année dernière à Arles et là, il manque les Gorganes qui étaient, donc cette famille qui était présente dans sa propre exposition à Arles et qu'on ne voit pas là. Ce travail, il est exceptionnel parce que ce qu'on voit tout au long de l'exposition, c'est d'abord une exposition sur la perception qu'on a des Gitans et des Tziganes. Et ce qu'on voit tout au long de l'exposition, c'est cette perception. Il y a deux manières de les percevoir. Il y a une manière extrêmement réactionnaire, c'est-à-dire c'est un peuple à part, asocial, criminel, foncièrement dangereux, voilà. Et puis d'un autre côté, il y a une vision beaucoup plus humaniste, mais en même temps, c'est des bons sauvages qu'on vous montre. Et que Mathieu Pernaud, il ne photographie pas des stéréotypes, il photographie des individus et vraiment une famille. Et faisant cela, il fait aussi, il régénère pour moi la photographie documentaire en montrant déjà dans l'accrochage, parce que chaque membre de la famille a son propre mur, donc chaque membre, on raconte son histoire. Il mêle des photos en noir et blanc, des photos en couleur, des photos qui sont vraiment des très très belles photos travaillées, puis des plus d'autres qui sont des instantanés. Et voilà. Et il nous raconte une histoire, il nous raconte l'histoire de cette famille, plus que l'histoire des Gitans ou des Tziganes. Moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Or, on a presque l'impression que c'est l'un des premiers à faire ça, sauf quand c'est des Gitans. Il y en a un dont, mais peut-être Anaëlle, vous l'avez en tête, un Tzigane dans les années 70 qui a photographié les siens. Là, c'est différent, mais la plupart du temps, c'est vraiment on vous montre soit les asociales, soit les bons sauvages. Et ça commence très très tôt, dès les débuts de la photographie. Il y a par exemple un photographe que je ne connaissais pas, qui est Jean-Philippe Poteau, qui travaillait au Muséum d'Histoire Naturelle. Lui, vraiment, c'est le bon sauvage qui va vous montrer. Il est allé dans le Bas-Rhin, il le magnifie, Il y a un Jean Lagrène, belle barbe, la prestance, des habits nobles. Enfin, vraiment, il va le magnifier. À côté de ça, quand vous voyez les photos anthropométriques, mais le magnifier selon les codes de l'époque. Voilà. Et à côté de ça, vous avez vraiment des criminels en puissance. C'est une exposition là-dessus, mais c'est aussi une exposition sur le pouvoir de la photographie. C'est-à-dire comment, grâce à la photographie judiciaire, grâce à la manière dont on va photographier ces tziganes, on va imprimer dans l'imaginaire collectif une vision très très marquée, celle que je viens de décrire. La société va retenir. Voilà.
Corinne Rondeau. premier regard sur cette grande exposition.
Oui, alors je croyais que Philippe Poteau, en fait, c'était les Tziganes qui étaient allés le voir parce qu'il faisait des photographies d'ambassadeurs et de voyageurs et il l'a demandé pour se faire justement photographier dans de très belles conditions parce que ça donne des personnages d'une très grande noblesse.
Très très grande noblesse.
Et sans doute le photographe dont vous cherchez le nom, c'est Matteo.
Oui, Maximoff, absolument. Non, c'est ça. Absolument, merci.
Alors cette exposition, elle n'est pas simple du tout parce qu'elle est très dense en termes de quantité de photographies. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord, anthropométrie. Donc, on va du fin 19e siècle jusqu'à Mathieu Pernaud. Donc, aujourd'hui, on est dans le vivant. Cette histoire, en fait, elle est... Alors, vous l'avez dit, Anaël, aussi, Yasmine. Et ce qui est intéressant, d'un point de vue photographique, c'est que le sous-titre, c'est la fabrique des images, Monde Tzigane. On voit bien que la photographie est prise comme un régime de visibilité. Et ce régime de visibilité, pour les commissaires, c'est d'abord de le montrer, ce régime, du côté du stéréotype. C'est le stéréotype, c'est ce qui nous permet d'identifier, de reconnaître, bien ou mal. En l'occurrence, pour les Tziganes, ce sont des voleurs de poules, ou ce sont des chapardes. Voilà. Donc, on est là face à une toute première partie de l'exposition, jusqu'à cette grande zone circulaire où on va les voir dans le monde entier, ces Tziganes, puisque comme c'est le peuple de la frontière et qu'il n'arrête pas de se déplacer, on le trouve partout. Et on le trouve en train de se photographier. Et c'est se photographiant jusqu'à justement ouvrir la porte du non-stéréotype, c'est-à-dire de photographier de l'intérieur. Donc vous avez toute une première partie très historique avec laquelle on peut prendre du plaisir ou alors être un peu dans l'ennui parce qu'elle se configure de la même manière que l'histoire a porté elle-même sa manière de photographier, notamment l'anthropométrie qui fait partie, la photographie judiciaire, donc on a effectivement les carnets anthropométriques, puisque on va supprimer les tickets de circulation pour qu'ils aient ces carnets en permanence sur eux, et s'ils les ont pas, ça va aller très mal. Donc on a toutes ces dimensions historiques qui évidemment nous ramènent quelque chose de notre présent aussi, il ne faut pas non plus négliger, on est quand même au musée de l'immigration. Et puis, vous avez cette manière de vouloir ouvrir la porte, c'est-à-dire qu'on va passer du stéréotype, c'est-à-dire un régime de visibilité, à une autre forme de régime de visibilité qui est l'intime familier. Puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on a? On va voir non plus les stéréotypes de la gitane qui va danser, mais ce qui est très étonnant, c'est que la gitane, elle va toujours danser. Elle va être, même quand ils se filment même à New York, ils dansent. Ce sont des êtres aériens, ils écoutent la musique, ils dansent, c'est des êtres qui sont comme ça. Ils sont en déplacement, en mouvement tout le temps. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre une gitane qui est filmée par un type qui a sa carte d'identité, un Français par exemple, sur un territoire français, je sais pas où, n'importe où, en Alsace par exemple. Et puis, qu'est-ce qui fait que, dans une liberté absolue, d'ailleurs, une des femmes des grands gitans new-yorkais, la femme de Roosevelt, je crois que c'est ça, allait lui rendre visite dans son atelier. Donc on voit bien que là, d'un coup, celle qui danse serait plus donc la même. Mais il y a un moment donné où le stéréotype qu'on condamne et qui va porter le voleur de poules est aussi quelque chose de l'être de ces Tziganes. C'est-à-dire que, et ça on va le voir même jusqu'à la fin, puisque lorsqu'on a la partie de l'exposition qui nous montre des photographes dont le plus extraordinaire est quand même Jan Hoorse, qui a 12 ans, paraît-il, il est parti de sa famille qui était très libérale, en disant « tu pars avec les Tziganes ».
Dans les années 30.
Voilà, ouais. Et il part comme ça, et puis il va faire la photo de l'intérieur. Mais vous avez aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, Matteo Maximoff, qui a fait à Montreuil, où il y avait Doisneau qui allait le voir, mais aussi Ronis. Et puis vous avez aussi Jacques Léonard, qui tombe fou amoureux d'une Espagnole de Barcelone, qui était dans le quartier de Montjuïc, et qui va la photographier toute sa vie. Et donc, vous avez quoi? Et vous avez Mathieu Pernaud, à la fin, qui fait quoi? Il rentre dans la maison. Il rentre lui aussi dans la maison. Tous ces photographes, Jacques Léonard, Matteo Maximoff, il est déjà dans la famille. Mais donc on passe du régime de visibilité stéréotype au régime de visibilité des corps. Parce que ce qu'ont ces gens, et ça on le voit dans l'exposition de Pernaud, et heureusement parce que c'est une vague qui revient sur le début de l'exposition, sinon l'exposition est assez lourdasse, parce qu'au niveau de la photographie, tout se répète, donc on n'arrive pas très bien, à moins de lire, de prendre beaucoup de temps, on voit pas bien. Et donc c'est une vague qui revient et qui nous dit, en fait, la singularité de ce peuple, il faut qu'il le reste jusqu'au bout des temps, c'est qu'ils ne peuvent pas être autre chose que ce qu'ils sont. Et c'est ce que nous, on a oublié, parce que nous, on est dans le stéréotype. Donc, on passe d'un régime de visibilité à un régime de visibilité des corps, c'est ce qui vit.
On a El Pija.
Il y a une chose intéressante que dit Mathieu Pernaud dans un beau texte dans le catalogue, qui est que cette photographie des mondes tziganes est en quelque sorte la photographie absolue. C'est-à-dire que l'objectif de la caméra est comme un point de contact entre le réel et le récit. Et d'une certaine manière, on ne sait pas de quel côté de la caméra se trouve le réel et de quel côté se trouve le récit. Parce qu'en fait, si on revient, en effet, par un effet de vague de retour sur le début de l'exposition, on regarde les photos des ethnologues, en gros, du début de l'exposition, et même les séances de pose terribles qui sont faites des photos d'identité, en fait, des tziganes, avec le fameux face profil qui devient un genre en soi, c'est terrible, enfin... On regarde ça de manière très différente quand on fait attention aux libertés que prennent certains photographes en détourant, par exemple, avec de la peinture blanche, les profils des tziganes, ce qui donne des images lunaires où on voit finalement là aussi des individus apparaître et où on sent que ces photographes prennent des libertés avec le genre. Et où on voit d'un autre côté, un peu plus tard dans l'exposition, les tziganes se prêter aussi au jeu d'être photographié et à jouer la comédie en quelque sorte avec les photographes et à se prêter à une sorte de théâtre. On voit dans le catalogue aussi, Mathieu Pernaud commente ça dans son texte, une tzigane qui se dénude devant l'appareil de photographie du photographe comme une sorte de provocation. Et en fait, on se rend compte que plus il y a d'images et plus il y a de photographies, plus ces tziganes conservent leur part de mystère et leur part d'invisible.
Yasmine Youssi, un dernier mot peut-être.
Moi, je voudrais revenir. Une exposition lourdasse, non.
On se cherche.
Il y a beaucoup de choses.
Il y a énormément de choses. Il y a des travaux qui sont absolument passionnants. Ce reportage, justement, dans les années 30, où on voit, c'est des policiers qui photographient, en fait, tout le processus de photos anthropométriques qui sont faites pour faire ces fameux carnets. Il y a un reportage, je crois que c'est au camp de Gurs pendant la guerre, sur les tziganes. Enfin, il y a vraiment,
c'est
vraiment,
ça que je
vraiment
veux
beaucoup
dire. Vous avez bien compris quand même. C'était peut-être un petit peu dense. On a appris là, à l'instant, la mort d'un photographe d'origine iranienne, Abbas, que je ne connais pas, mais que peut-être vous connaissez. Non, absolument pas.
C'était un très grand photographe de l'agence Magnum. Enfin, c'était un photographe de l'agence Magnum, très grand, je ne sais pas, qui avait photographié, qui avait essentiellement travaillé qui est surtout connu pour ses photographies de la révolution iranienne. Tout un travail en noir et blanc. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, d'ailleurs, dans son travail.
Qui apparemment faisait référence pour plein de jeunes photojournaliste aujourd'hui en France, Anaëlle Pija.
Je me trompe en me disant qu'il a été montré à Arles dans l'exposition sur la photographie iranienne il y a l'année dernière,
c'est
me semble-t-il.
C'est possible, mais ça m'a pas marqué
pour cette information.
C'est possible. Bon, en tout cas, voici pour Monde Tzigane, autre chose, la fabrique des images, grande et vaste exposition qu'on peut voir au Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris jusqu'au 26 août prochain. Et à cette occasion, a paru un livre où il y a peu d'images finalement, que j'ai pu un peu regarder, où il y a assez peu de photographies, mais beaucoup de textes qui sont passionnants, qui portent le même nom et qui est coédité par le musée et par Actes Sud.
France Culture. La dispute, Lucille Comeau.
Le temps de vérifier que Abbas faisait en effet bien partie des photographes iraniens qui étaient exposés à Arles, Anaëlle Pija.
C'est un bon photojournaliste.
Bon, sur ce, troisième et dernier sujet de cette dispute consacrée ce soir aux arts plastiques, on va sortir un peu de la photo avec Junya Ishigami Freeing Architecture. C'est une exposition qui est installée à la Fondation Cartier pour l'art contemporain jusqu'au 10 juin prochain. C'est la première fois, je crois, que cet espace accueille une exposition entièrement dédiée à un architecte. En l'occurrence, un architecte star, né en 74, il a reçu très jeune de multiples prix, notamment un Lion d'or de la Biennale d'architecture de Venise. Junya Ishigami a en cours de multiples projets qui sont présentés dans l'espace de la Fondation sous de multiples formes, on va en parler. Des projets qu'il réalise avec une obsession, l'adaptation des formes à leur environnement.
Thank you.
Alors Corinne Rondeau, est-ce que vous allez nous guider parmi ces non-réalisations en fait, parce que très peu de projets d'Ishigami sont réalisés à ce jour.
Non mais écoutez, c'est une merveille cette exposition, moi qui n'ai pas du tout la fibre architecturale. D'ailleurs j'en suis en train, je me dis aïe aïe aïe, et puis en fait pas du tout. Alors évidemment on retrouve...
Alors pourquoi vous vous êtes dit aïe 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 par exemple?
Aïe aïe aïe, parce que comment parler de l'architecture? C'est très dur de parler de l'architecture, on est dans une exposition... En plus, bon, on parle d'art plastique, mais là pour le coup, bon, l'artiste peut peut-être se prêter davantage à quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout spécial de l'architecture. Ce qui est intéressant, c'est que le garçon a fait lui-même l'exposition, l'architecte lui-même, et en fait il y a une manière de nous accompagner, répétitive, toujours très calme on va dire, on ne se perd jamais, il y a toujours des petits dessins faits à la main, toujours une écriture japonaise et la traduction avec des phrases extrêmement simples du projet, il n'y a pas de prétention, c'est quelqu'un qui sait s'adresser, il s'adresse à chaque fois à la population pour qui il veut faire ses œuvres, ça c'est important. Mais là, en l'occurrence, pour l'exposition, on voit aussi qu'il s'adresse à nous, parce que l'architecture n'a rien de simple. Donc on a des maquettes, des prototypes, des dessins, des plans aussi. Donc là, moi, je sais qu'un plan d'architecte, je sais pas le lire. Et ben, pour le coup, là, ce qu'il fait, ben, c'était assez lisible. Et c'était donc un grand bonheur de voir à chaque projet de circuler à travers plusieurs formes et en même temps de rentrer vraiment dans un univers petit à petit. Moi, je dois dire que je me suis arrêtée sur la première fois où je me suis arrêtée parce que les formes sont elliptiques, spiralées, souples, malléables. Donc, il y a beaucoup d'ellipses, de courbes et quelque chose qui est la nature est toujours récurrente, hein, la mer, le ciel et la terre aussi. C'est quelqu'un qui va souvent chercher la terre, chercher le creux, faire apparaître des bâtiments, les élever, non pas les élever, mais creuser pour faire apparaître le soubassement. C'est quelqu'un qui va même se servir de la terre pour faire un moule, pour faire un hôtel, un restaurant en maison, puisque c'est le projet d'un restaurateur qui veut à la fois sa partie privée, sa partie publique de restaurant. Et c'est absolument hypnotique de rentrer dans cet univers comme ça. Alors moi, j'ai pris grand plaisir, parce que c'est un architecte de la lumière. C'est un architecte avec des matériaux qui sont toujours les mêmes, qui sont le béton et l'acier notamment. Et puis moi j'ai vraiment, j'étais absolument admirative d'un projet qui est les résidences pour personnes âgées. Je trouvais mais admirable.
Alors décrivons parce qu'il y a plusieurs procédés, c'est compliqué.
Oui, parce qu'en fait les procédés sont toujours liés en fait à la manière dont il va appréhender le travail qu'on lui demande ou même si c'est lui qui le produit. Là en l'occurrence, c'est produire une résidence pour personnes âgées qui sont atteintes de sénilité avancée ou de démence, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de repères. Et donc il y a une tradition au Japon qui consiste à déplacer les maisons telles qu'elles sont ailleurs, c'est le Ikiaya, et et donc en fait dans plusieurs villes il va enlever des maisons de bois qui ont été faites par des charpentiers qui ont toutes la même taille, qui est la taille du tatami, et toutes ces maisons de géographie différente, de charpentiers différents vont être replacées dans une même localité avec d'autres bâtiments, mais en fait pour que ces gens retrouve les repères qui étaient ce qui peut être encore quelque chose de leur mémoire. Et j'ai trouvé cette manière de s'adresser, il s'adresse tout le temps, je veux dire, il a vraiment le sens de se poser la question pourquoi faire l'architecture aujourd'hui dans l'état du monde tel qu'il est. Alors, il a un côté taoïste, zen, ce que vous voulez, bien sûr, mais moi, ça m'a fait grand plaisir de voir un architecte japonais d'une autre culture m'amener cette attention à l'autre, et dans tous ses projets, il y a une attention, je dirais, qui moi m'a vraiment particulièrement rendue très attentive et voilà, pleine d'élan en sortant de l'exposition.
Anaël Pigeat,
je vous vois acquiescer,
tout le monde acquiesce.
J'étais très impressionnée aussi par cette exposition. C'est vrai que Junya Ishigami est une sorte de poète ou de magicien de l'architecture. Ce qui est très beau dans l'exposition, c'est qu'en fait, chaque projet est comme une évidence. Chaque projet est un petit récit qui surgit comme ça, avec le plus grand naturel. C'est une fausse simplicité, parce qu'en fait, il y a une extrême sophistication et beaucoup de labeur derrière chacun de ces projets, mais il y a une élégance comme ça, on a l'impression que les objets adviennent. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'exposition est comme une grande installation. On voit des maquettes, effectivement, un tiers des projets seulement, je crois, a été réalisé, mais ces maquettes en elles-mêmes sont vraiment comme des œuvres. C'est-à-dire que Il y a un soin fou apporté à la réalisation de chacun des petits arbres de plantés sur l'emplacement d'une ancienne rizière. Il y a des parois en verre d'un centre d'accueil comme ça dans un parc. Junya Ishigami, en fait, est toujours dans ce rapport très singulier avec la nature. En fait, il élimine les frontières entre la nature et l'architecture. Il y a ce projet stupéfiant au Danemark d'une sorte de bâtiment nuage, enfin de construction nuage qui est posée sur l'eau. Alors, il est fermé, c'est une sorte de cloche blanche posée à la surface de l'eau dans laquelle on peut rentrer avec un bateau. L'été, c'est ouvert à tout vent, donc on imagine la chose délicieuse. Et l'hiver, il y a des parois en verre qui ferment la bulle blanche. On rentre aussi en bateau, mais là, on est dans un climat tempéré et on est protégé, je suppose, des vagues et de la mer. C'est un mémorial pour la paix à Copenhague. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ce travail. Il y a par exemple plusieurs installations pour des jardins d'enfants. Un avec des toits en découpage d'enfants qui sont de découpage d'enfants qui sont très charmants. Puis il y a un autre terrain de jeu pour enfants avec des constructions qui ont la forme de grands animaux. J'ai envie de rentrer tout de suite, en tout cas. Il y a une sorte de légèreté comme ça. Et puis, il y a chaque fois, on a l'impression qu'il se concentre vraiment sur le public auquel il s'adresse. Il y a par exemple pour l'université de Kanazawa, si je ne me trompe pas, un grand hall comme ça d'accueil des étudiants où il y a une infinité de colonnes, mais alors qui ne sont pas disposées de manière régulière. Le dispositif n'est pas aléatoire non plus, mais ça rejoint l'idée que chacun est là avec son individualité et que voilà. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'il incarne ce renouveau de l'architecture japonaise. Il a fait ses classes auprès de Sanaa, qui a dessiné le Louvre-Lens. Il a lancé son agence d'architecture ensuite, et il attire aujourd'hui un tas de jeunes talents qui viennent travailler avec lui et qui est une sorte de catalyseur comme ça de recherche sur l'architecture japonaise. Et qui porte en lui cet héritage du renouveau de l'architecture japonaise, en fait, depuis la guerre, puisqu'il y a l'influence de la modernité et il y a les traces du métabolisme qu'on retrouve aussi, qui était, soit dit en passant, très bien montré dans l'exposition de Metz, du Centre Pompidou-Metz, dont on avait aussi parlé dans l'exposition, qui s'appelait Japanness, pas Japanorama.
Yasmine Lucie, est-ce que vous vivriez dans une maison de...
Je souscris absolument, avec joie, je souscris absolument à tout ce que Corinne et Anaëlle viennent de dire. Moi, je suis comme Corinne, c'est-à-dire que les expositions d'architecture, en général, c'est plutôt une tannée qu'autre chose. Je comprends pas grand-chose, donc là, j'y allais un peu en traînant des pieds. Puis c'est vrai que le premier texte que j'ai commencé à lire, qui s'appelle « Libérer l'architecture », j'ai trouvé ça un peu benêt.
Mais qui est assez désarmant, comme tous ces textes. Oui. Sont d'une naïveté et on voilà, s'y fait c'est, d'une certaine manière.
Vous dites naïveté, moi j'aurais dit oui, vraiment un côté un peu benêt, même s'il pose des questions qui sont quand même très intéressantes. Est-ce qu'il faut intégrer les traditions passées ou est-ce que l'architecture s'adresse à tout le monde ou à un individu en particulier? Est-ce que ça s'adresse aux hommes ou aux êtres vivants en général? Bon, voilà, mais c'est vrai que le texte... Et puis tout d'un coup, je suis tombée, mais... J'étais fascinée par cette architecture. C'est vraiment pour moi un architecte écologique vraiment au sens premier, c'est-à-dire que c'est pas comme beaucoup quelqu'un qui se contente de planter trois brins d'arbre, un arbre ici, c'est pas du tout ça. Lui se faufile, se glisse dans la nature et c'est assez impressionnant. On le voit notamment avec une chapelle en Chine, une chapelle œcuménique qu'il appelle le Chapel of the Valley, qui s'est glissée dans une faille rocheuse. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on montre une petite maquette et puis ensuite il y en a une beaucoup plus grande. De ce que j'ai compris, il n'y a même pas de toit. Mais alors je crois qu'il expliquait à mon collègue Luc Le Châtelier qu'en fait comme la pluie tombe en biais, ben on n'est pas mouillé. Et puis on vous montre bien cette maquette, mais alors vraiment gigantesque, et on vous montre l'échelle par rapport aux hommes. Je crois que c'est elle fait 45 mètres de haut, et elle est enfoncée à 20 mètres. C'est vous voyez, et quand vous dites, c'est exactement ça quoi. Il est au plus près des gens. C'est-à-dire que c'est vrai que ces derniers temps, surtout parmi les architectes français, on a été habitué à quelques trucs assez ahurissants. D'abord, c'était qui allait faire la plus grosse. Et là, c'est pas du tout qui
allez avoir la plus grosse tour, là, c'est pas du tout le cas. Je vous rappelle quand même, je crois que c'est à Montpellier, mais corrigez-moi si je me trompe. Est-ce que c'était pour la mairie, pour je ne sais quoi? Je crois qu'à un étage, on avait carrément oublié les toilettes pour les gens, pour un bâtiment public, quand même. Voilà, oui, bah, je crois que c'était le bâtiment de Jean Nouvel pour la mairie.
La nouvelle mairie.
Oui, la nouvelle mairie de Montpellier. Donc voilà, là, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. Et c'est ce qui fait la beauté de ce travail. C'est aussi un artiste. D'ailleurs, il y a une œuvre, je dis une œuvre, hein, parce que c'est cette arche qui est à Sydney, qui est en train d'être construit, je crois, à Sydney, à côté de la mairie de Sydney, où là, ça n'a pas d'autre fonction que de permettre aux gens de voir l'environnement, d'un regard différent. Cette œuvre aussi, c'est juste une arche comme ça dans l'espace, qui change, la vision change en fonction du lieu où vous vous mettez. Effectivement, dans ces maquettes, il y a un vrai travail de plasticien. Elles sont superbes.
Le premier,
Annaëlle Pigeon.
On dit que la caractéristique de cet architecte est de travailler avec son contexte, avec le contexte dans lequel il se trouve. Le premier constat qu'on peut faire, c'est le dialogue admirable qu'il établit avec le bâtiment même de Jean Nouvel, de la Fondation Cartier, qui est ce bâtiment en verre, tout en transparence, qui donne sur un jardin. Et la manière dont il fait flotter ses dessins le long des parois de verre, montre ses dessins d'arbres le long des arbres, et organise l'espace autour de ces maquettes est absolument remarquable. Et la chose est faite vraiment dans les moindres détails, puisque même le mobilier de l'exposition, les chaises pour les gardiens, est une série de meubles dessinés par lui qui s'appelle Picnic et qui dessine un véritable paysage où on a l'impression de voir une chaise comme un lac, une sorte de flaque comme ça. Et il parle de ces chaises et de ces éléments de mobilier comme des membres d'une famille qui sont à un pique-nique, enfin qui participent à un pique-nique. Et de fait, ça fonctionne vraiment très bien.
Il faut dire aussi que les maquettes qui sont exposées, qui sont très très nombreuses, alors là, vraiment amateurs de maquettes, précipitez-vous, moi qui aime beaucoup les maquettes, elles sont magnifiques, n'ont pas été conçues pour, je crois, pour l'exposition. Je crois qu'il les conçoit vraiment pour lui, pour sa réflexion sur son travail, ce qui est quand même assez exceptionnel quand on voit le niveau de précision des maquettes et du petit mobilier, des petits personnages qui sont inclus dedans.
D'après ce que j'ai compris, il y en a un certain nombre qui ont été réalisés sur place par des assistants et qui ont été faites vraiment
quand même. Corinne Rondeau, peut-être aussi sur les habitations, parce que de fait il en réalise aussi, il s'intéresse aussi aux domestiques et à l'intérieur, il n'est pas uniquement un architecte institutionnel.
Non du tout, enfin on aimerait en voir en vrai beaucoup plus, mais non, il y a la maison de ses parents et de sa grand-mère, et ce rapport qu'il a à sa grand-mère, ce petit texte dont vous dites presque bonnet, il est tellement simple, et cette manière de continuer la ligne, c'est aussi continuer l'architecture pour produire presque un mouvement, un grand bâtiment. En fait, il a prolongé avec une pente descendante la toiture qui, en fait, reconduit sur une pente ascendante le jardin, et la toiture est herborée elle aussi. Et vous avez en fait une maison qui est gigantesque en dessous. Et moi, j'imaginais la lumière dans cette maison, puisqu'en fait, la pente de la toiture est plus basse que vous debout. Autrement dit, vous avez une lumière rasante en permanence, qui veut dire que vous êtes tout le temps sur le tatami et vous êtes tout le temps en train de contempler le paysage, c'est-à-dire votre jardin, le jardin de sa maison d'enfance. Et cette manière de cette vieille maison qui était en désuétude ou qui était qui devait refaire, eh bien voilà, il y a cette maison et je pense que là aussi il y a cette idée que toute architecture ne peut être reconduite que par une histoire. Et pas qu'un environnement, parce que l'environnement, c'est aussi de l'histoire. Et la mémoire.
Aussi, un dernier mot.
Oui, je voulais juste dire à nos auditeurs, surtout, de bien prendre le petit guide. On est très, très bien accompagnés dans l'exposition.
Ah, il est super,
l'exposition.
Oui, parfaitement.
Et il y a le petit guide qui est très,
très
joli.
Il est grand.
Il est grand,
il est pas
on peut
petit.
Partir avec.
Oui,
on peut
le mettre dans aucun sac.
Il y a 17 pièces en tout, 17 maquettes qui sont présentées. Et en fait, chacune est très, très bien expliquée à l'intérieur de ce guide.
Annaëlle, un mini, mini mot.
Il y a une interview dans laquelle il dit que quand il réfléchit à un projet, il réfléchit aussi à la manière dont l'œuvre va se détériorer. Parce que si un bâtiment n'évolue pas, il finit par être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Et en fait, je trouve que cette manière d'envisager l'architecture dans le temps, c'est-à-dire aussi avec une part de fantasme, est extrêmement belle.
Juni Ishigami, Freeing Architecture. Bon, pourquoi pas un titre français, ce serait aussi simple, notamment pour moi. L'exposition est à voir à la Fondation Cartier pour l'art contemporain jusqu'au 10 juin prochain. Et il y a un très très grand catalogue, encore plus grand que le livret, qui est apparu aux éditions du même nom. Il y a un arbre dans la maison, mais c'est quand même l'heure de conclure cette émission, mais non sans avoir joué. Camille André est là, qui nous rappelle d'abord la question d'hier et qui nous en donne la réponse.
Quel est le titre de la chanson écrite par Barbara pour François Mitterrand en 1981 ? Et il s'agit de « Regarde ».
Des invitations à gagner ce soir pour la série télévisée 8 heures ne font pas un jour de Rainer Werner. Oh, j'arrive pas à dire ce nom décidément ce soir. Rainer Werner Fassbinder, qui sort aujourd'hui au cinéma en version restaurée. Quelle est la question, Camille ?
Eh bien, dans quel film récemment sorti en salle pouvait-on voir Anna Chigoula, actrice fétiche de Fassbinder, dans le rôle de Sœur Myriam ?
Si vous avez la réponse, vous pouvez l'envoyer ainsi que vos coordonnées postales à l'adresse suivante, auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr, à la page de La Dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. Aiguisez vos commentaires pour l'émission de demain, vous pouvez les poster sur la page Facebook de La Dispute dès maintenant ou attendre le direct pour commenter via le compte Twitter DisputeFC avec le hashtag La Dispute. Je profite de quelques secondes qu'il me reste pour vous dire que si vous ne le savez pas déjà, ce week-end au Centre Pompidou aura lieu le festival Imagine organisé par France Culture avec pour thème Mai 68. Samedi et dimanche, vous pourrez y voir et entendre gratuitement des émissions, des masterclass, des films, des concerts. Tout le programme est bien entendu sur le site de France Culture. En attendant demain, je serai en compagnie de Raphaël Léris, Grégoire Leménager et Jean-Christophe Brianchon pour une dispute consacrée à la littérature. Au sommaire, Le Lambeau de Philippe Lançon, Le Chagrin d'aimer de Geneviève Brisac et Autoportrait de Paris avec chat de Dany Laferrière.